Réplique « Où va l'Iran ?» avec Thérèse Delpech et Jean-François Colosimo. Le 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini, exilé depuis 15 ans, rentre triomphalement à Téhéran. Il est accueilli par une foule immense et le 30 mars de la même année, la République islamique est adoptée par référendum. 30 ans plus tard, le 12 juin 2009, très exactement, Mahmoud Ahmadinejad est élu pour un second mandat consécutif président de cette République islamique à l'issue d'un scrutin massivement frauduleux. Des manifestations éclatent, une foule en colère de citoyens spoliés défile dans les rues de Téhéran en vain. Une répression brutale s'abat sur le pays, les protestataires sont mis au pas, des parodies de procès ont lieu où les accusés avouent avoir été manipulés par les puissances occidentales. Ce destin funeste du printemps de Téhéran inspire aux chefs d'État occidentaux des commentaires scandalisés et impuissants. En visite le 31 août à Berlin, le président de la République française rend hommage aux dignitaires du régime qui dénoncent les tortures et déclare que le peuple iranien mérite mieux que ses dirigeants actuels. Est-ce à dire, et ce sera ma première question à Thérèse Delpech, qui a publié naguère « L'Iran, la bombe et la démission des nations » et à Jean-François Colosimo, auteur du paradoxe persan paru au début de l'été, est-ce à dire donc que l'idée d'une conciliation de la légitimité populaire et de la légitimité divine a fait long feu et que l'Iran, naguère paradoxal, n'est plus rien d'autre aujourd'hui pour la majorité de sa population qu'un État banalement et redoutablement totalitaire. Jean-François Colosimo.
Je dirais que c'est un État désormais ouvertement autoritaire, qui a renforcé les dimensions totalitaires qu'il contenait, mais ce n'était pas qu'un État totalitaire. Il y avait plusieurs, je dirais, phénomènes d'ouverture dans ce régime si particulier. Un de ces phénomènes d'ouverture, c'était la liberté de circuler. On pouvait sortir d'Iran, on pouvait émigrer, n'est-ce pas ? Un autre, c'était une constitution qui donnait des sièges de députés à des représentants de communautés, dont la communauté juive, qui évidemment ne pouvait pas se déclarer sioniste, mais dont la liberté de culte était garantie. Et enfin, évidemment, il y avait ce principe, malgré tout, de scrutin régulier, qui était évidemment, où les candidats qui pouvaient se présenter devaient être dans le spectre admis du pouvoir, mais ce n'était pas forcément les candidats retenus par le guide suprême qui étaient élus, confèrent la double élection successive de Khatami, qui a toujours été considéré comme un réformiste, bien que ce mot ne veuille pas dire grand-chose, mais qui, malgré tout, à aider un processus de libéralisation de la société concernant la presse, les femmes, etc. Alors ça y est, c'est fini. Ce qui est fini, c'est que cette volonté qu'avait l'ayatollah Khomeini de concilier la charia, la loi divine et la démocratie en disant que la voix d'un peuple bien orienté ne pouvait que coïncider avec cette voix venue d'en haut de Dieu, eh bien ça, c'est fini parce que pourquoi ? Parce que cette fois-ci, le régime, le guide suprême, ce qu'on appelle, là encore, certainement à tort, les conservateurs, puisqu'ils sont tous conservateurs, tout de même, il faut le rappeler, n'est-ce pas, hein, je veux dire. Bon, eh bien, ces gens-là ont décidé de, effectivement, fausser le scrutin. Ils avaient vraisemblablement peur que la jeunesse finisse par déborder le vote. D'où le fait que la manipulation a été massive et qu'elle s'est vue de manière éhontée. Et à ce moment-là, la crise étant ouverte, qu'est-ce qui s'est passé? Le guide suprême est descendu de son piédestal, il a renoncé à son rôle d'arbitre, il est devenu partisan, il s'est momentanément allié avec Ahmadinejad, même si aujourd'hui il y a des différends entre eux, et à partir de ce moment-là, on a basculé dans un régime autoritaire dont les dimensions totalitaires sont devenues évidentes, à savoir une police secrète qui double la police civile et une milice, les Pasdaran, qui double l'armée régulière. Et tous les pouvoirs sont concentrés désormais dans une forme de dictature. À preuve, l'internement des opposants, à preuve l'absence de règlement juridique des contentieux, à preuve le durcissement idéologique du régime.
Thérèse Delpech.
Moi, je crois que ce qui est nouveau, ce n'est pas tellement le rôle de la police secrète ou des Pazdaran, parce que, bien sûr, on peut interpréter ce qui s'est passé comme un coup d'État militaire, en fait. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'ils ont de plus en plus de pouvoir. Mais moi, je dirais que, tout simplement, le masque est tombé. C'est-à-dire qu'en réalité, cette situation a toujours été la vérité du régime islamique en Iran, que la nouveauté, c'est en fait, d'une part, le fait que le guide a perdu toute légitimité, c'est-à-dire qu'il ne peut plus passer pour l'incarnation d'une légitimité, surtout d'une légitimité divine, après avoir parlé des élections comme d'une bénédiction de Dieu. Il est bien évident que, comme tout le monde savait qu'il y avait une fraude massive, cette formule était vraiment tout à fait malvenue du point de vue religieux. Donc, ce qui est nouveau, c'est la perte de légitimité donc du guide suprême. C'est le fait que aucune des institutions n'ont été respectées. Par exemple, la constitution dont vous parliez n'a pas été respectée, puisque selon la constitution, vous devez attendre 3 jours pour déclarer les résultats. Là, ils étaient tellement pressés de faire en sorte qu'Ahmadinejad soit déclaré président qu'à 2h du matin, l'annonce était faite. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a pu voir immédiatement qu'il y avait fraude, parce qu'on ne peut évidemment pas compter 40 millions de voix à la main, qui plus est, en 4 heures. Donc, il y a la Constitution qui n'a pas été respectée, le guide suprême qui a perdu sa légitimité, l'Assemblée des experts qui est quand même dépositaire de la légitimité précisément du guide, qui n'a rien fait. Le Conseil des gardiens, qui est gardien de la Constitution, qui n'a rien fait. Et tout récemment, là, on vient de voir que l'Assemblée a finalement accepté l'ensemble pratiquement du gouvernement proposé par Ahmadinejad, sauf 3 ministres, alors que ses choix étaient extrêmement contestés dans les dernières semaines. Donc moi, je crois qu'on est vraiment dans un régime qui est de nature totalitaire aujourd'hui.
Mais alors, vous dites... Thérèse Delpech, dévoilement, le masque est tombé. Vous dites, Jean-François Calossimo, basculement. Avant que nous nous interrogions sur les raisons du vote des citoyens, du rejet par les citoyens de la forme prise par la République islamique, je voudrais que nous creusions cette opposition entre vos deux diagnostics. Dévoilement d'un côté, basculement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Jean-François Calossimo.
Je dis que le régime est... porter une ambivalence originelle. Pourquoi ? Parce que ce régime, qui nous apparaissait à nous comme de nature foncièrement réactionnaire, puisqu'il supposait un retour à la religion, comportait néanmoins des éléments de l'idéologie progressiste. D'où cette insistance, d'ailleurs, sur la démocratie. D'ailleurs, Thérèse Delpech le dit, elle dit que les institutions n'ont pas fonctionné. C'est donc qu'il y en avait, n'est-ce pas ? Le guide a perdu sa légitimité. Il faut donc croire qu'un jour, il l'a eu. N'est-ce pas ? Bon. Bémol aussi ce que vous disiez, Alain Finkielkraut, vous dites pour la majorité du pays, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a une majorité aussi silencieuse des campagnes, etc., qui continue fondamentalement, probablement, à adhérer à cette mythologie révolutionnaire. Mais la révolution islamique se voulait aussi une révolution. Elle ne se voulait pas qu'une contre-révolution. C'est pour cela que l'imam Khomeini a voulu endosser le rôle de leader du tiers-monde, n'est-ce pas ? C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il a récupéré le conflit israélo-palestinien pour affirmer sa suprématie. Donc là, on a, je crois, une ambivalence au départ, cette ambivalence qui repose sur une mythologie, à savoir que la révolution islamique était le parachèvement de tous les mouvements révolutionnaires, n'était pas un mouvement anti-lumière, mais était un mouvement qui était censé apporter aux femmes, aux Noirs d'Amérique, à qui l'on voudra, finalement, une forme d'espérance que le marxisme avait détrompée. Eh bien, cette révolution islamique, aujourd'hui, elle apparaît effectivement pour ce régime autoritaire, totalitaire. Moi, je ne suis pas pour hyper abuser du terme totalitaire. Mmh. Je crois qu'il y a quand même une codification assez stricte. qui a été posée par Hannah Arendt, je dis qu'effectivement, si on va être clair, l'Iran d'aujourd'hui comporte assez d'éléments totalitaires pour être condamné, c'est pas la question.
J'ai bien compris.
Voilà, est-ce que le totalitarisme achevé ? Je n'en suis pas encore totalement sûr. Voilà.
Thérèse Delpech.
Bon, la raison pour laquelle je parle de dévoilement et pas de basculement, c'est parce que je pense que dès le départ, il y a eu en Iran, dès 79, une captation de la religion par le politique et pas l'inverse. C'est-à-dire que Khomeini a mis en place un régime qui s'est servi de la religion pour asseoir un pouvoir. Et d'ailleurs, c'est une des contestations principales du clergé chiite, en particulier du haut clergé chiite, celui de Qom, mais plus encore celui de Najaf, qui conteste tout à fait la façon dont les ayatollahs, les mollahs, véritablement exercent le pouvoir politique. Et comme vous le savez, il y a dans la version de Khomeini, que Khomeini donne du chiisme, il y a une version qui n'est pas acceptée par une très grande partie de ce clergé. Deuxièmement, en ce qui concerne le guide suprême actuel, Khamenei, il se trouve que Khamenei n'a jamais véritablement eu une légitimité forte pour une raison simple, c'est que l'ayatollah qui devait remplacer, qui devait succéder en fait à Khomeini était l'ayatollah Montazeri, qui était un des grands ayatollahs. Et la raison pour laquelle il ne lui a pas succédé, c'est parce qu'il s'est opposé à lui sur le massacre des prisonniers irakiens et sur la fatwa envers Salman Rushdie. Et donc, à partir de ce moment-là, on a cherché à trouver, on a cherché quelqu'un d'autre pour remplacer Montazeri. On a trouvé Ali Khamenei, qui, et c'est très intéressant pour la crise actuelle, qui, n'ayant pas de légitimité religieuse véritable, s'est tout de suite appuyé sur des éléments militaires et paramilitaires.
Moi, je crois que justement, l'événement de 79, c'est que justement, on ne peut plus tellement opposer religion et politique selon une dyade bien connue de nos mentalités occidentales. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait à ce moment-là une religion distincte du politique, un politique distinct du religieux. C'est ça la réussite de Khomeini. Et même ses opposants parmi le haut clergé chiite sont obligés à ce moment-là de descendre dans l'arène politique et de se justifier politiquement. C'est une véritable divinisation du corps social, c'est ça le fondamentalisme. Et là, le fondamentalisme, il est englobant et c'est là où il a sa dimension totalitaire. Donc je pense que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Khomeini lui-même, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il n'est pas si chiite que ça. Khomeini, il est d'abord musulman. Ce qui est vraiment surprenant dans le monde chiite, où on est plutôt d'abord chiite que musulman. Et il essaie en fait de capter à son profit aussi le mouvement islamiste en soi. Troisième point et dernier, après la mort de Khomeini, la question s'est posée de savoir si on allait garder l'institution du guide suprême. Et c'était déjà un des premiers signes de durcissement et de sclérose de ce régime que de perpétuer cette institution qui correspondait, dans leur représentation à eux, mythologiquement, à justement l'épiphanie révolutionnaire de l'imam, n'est-ce pas ? Et là, on voit que le régime a voulu se survivre, et avec le résultat qu'on voit aujourd'hui.
Mais là, précisément, en 1978-1979, toutes ces émeutes, toutes ces manifestations qui mènent au départ du Shah et retour triomphal de Khomeini, l'Occident assiste à ces événements, étonné, dans certains cas subjugué, et Michel Foucault parle à ce moment-là, pour cette fusion dont vous parlez, du religieux et du politique, il parle d'introduction d'une dimension spirituelle dans la vie politique, il risque même, à la fin d'un article du Nouvel Observateur, l'expression de spiritualité politique, il dit, elle va faire rire, on aura tort. Mais alors, maintenant je m'interroge sur le sens des manifestations, justement. Est-ce que ces manifestations ne nous disent pas, les dernières, que, en réalité, il n'y a pas de république, il n'y a pas de démocratie vivante sans laïcité ? C'est-à-dire liberté de conscience, séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux. On m'a dit par exemple qu'il y avait une blague qui circulait sur SMS, j'ai parlé de printemps de Téhéran, printemps de Prague, printemps des blagues, qui disait pourquoi Ahmadinejad se coiffe avec la raie au milieu pour séparer les poux mâles des poux femelles. Donc une façon d'en finir, en quelque sorte, avec cette loi islamique qui pesait sur la société, un retour à la plaisanterie à travers elle, oui, à la liberté de conscience, à un certain scepticisme, une manière de dire non. Si on veut une république, la spiritualité politique ne marche pas, le paradoxe iranien est une imposture, tout ça est un mensonge dont il faut sortir.
Je crois qu'il y a tout à fait vrai, d'abord parce que là je suis d'accord avec Thérèse Delpech, il y a plusieurs ressources dans la grande tradition chiite d'une relative distinction du spirituel et du politique, ça c'est fondé historiquement. Par exemple, aujourd'hui en Irak, Sistani, le grand ayatollah Sistani, est plutôt représentant de cette tendance-là, évidemment dans un cadre de société plus archaïque, de société musulmane, mais tout de même une distinction des deux pouvoirs. Et deuxièmement, surtout, ce qui me semble important, c'est qu'il n'y a pas eu de théocratie en Iran, il y a eu une mollacratie, c'est-à-dire un règne du clergé, des mollas, avec le fait d'entrer dans le clergé devant une sorte d'ascenseur social, provoquant en retour un affadissement complet, je dirais, de la représentation cléricale. Et les Iraniens, je crois, sont aujourd'hui, au moins les Iraniens urbains, cultivés, sont dans une forme d'agnosticisme profond, et certainement envisagent le fait religieux, la croyance, l'adhérence ou l'adhésion religieuse, comme nous la concevons, c'est-à-dire dans la sphère privée. Et ça appartient assez aussi à la culture iranienne.
Thérèse Delpech.
Je crois que ceci montre assez bien aussi qu'il y a eu effectivement une captation du religieux par le politique. C'est quand on parle de mollacratie et d'ascension sociale, c'est exactement ce que l'on dit. Et ce dont on n'a pas encore parlé, c'est de l'extraordinaire corruption qu'il y a dans ce régime, dans sa partie civile et dans sa partie paramilitaire. Dieu sait si les pasdarans sont corrompus, mais qu'il y a aussi dans ce régime, dans sa partie religieuse.
Monsieur, on est d'accord.
Donc, j'essaie d'illustrer le propos que je tiens depuis le début sur le côté dévoilement et masque qui tombe. Mmh. Nous avons actuellement en face de nous la vérité du régime iranien, et ce que je soutiens, c'est qu'il n'y a pas du tout une rupture avec ce 12 juin, mais qu'il y a en fait ce que vous appeliez donc une ouverture finalement sur la vérité des choses. Mmh. Alors, en ce qui concerne
la rupture, elle tient dans le fait qu'il y a un véritable, vous l'avez dit vous-même, putsch. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe n'était pas inéluctable. Il a fallu qu'il y ait une prise de pouvoir pour qu'on en soit là où on est aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que le régime antérieur, encore une fois, était bon ou acceptable. Il faut dire simplement qu'il avait une élasticité un tout petit peu plus grande et d'ailleurs, c'est tout l'embarras aujourd'hui des puissances occidentales, parce qu'à tout prendre, si l'opposant de M. Ahmadinejad avait été élu, il n'aurait pas été moins pour acquérir une bombe atomique, il n'aurait pas été moins délétère au Proche-Orient. Simplement, on pensait qu'on aurait pu parler avec lui. Donc, il y a bien eu une prise de pouvoir. Et c'est exactement une prise de pouvoir appuyée sur cette génération qui, d'ailleurs, n'est pas cléricale. Ahmadinejad ne porte pas de turban, il n'est pas membre du clergé. Ce sont en fait les soldats de l'an 2, les sans-culottes qui sont sortis de la guerre contre l'Irak et qui aujourd'hui, en fait, appellent une sorte de consulat.
Alors Ahmadinejad, puisqu'on parle de lui, Ahmadinejad est quelqu'un qui n'est peut-être pas un personnage qui sort du clergé, il ne l'est pas, ça c'est sûr. Ceci n'est pas contestable, mais il se trouve que, sur le plan idéologique, il représente, et alors lui, pour le coup, il y croit, il représente une tendance religieuse radicale à laquelle le clergé lui-même n'adhère pas, pour la plupart, puisqu'il n'y a qu'une petite partie qui est d'ailleurs une secte, qui est connue,
sectaire.
Qui est la secte au Jatier, une petite partie avec un seul des ayatollahs de Qom, qui est l'ayatollah Yazdi, qui est d'ailleurs le seul qui l'ait félicité après les élections, qui soit dans cette ligne sur le retour du Mahdi. Maintenant, si on parle de la jeunesse, il faut bien voir qu'on est dans une société où 60% des Iraniens ont moins de 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que 60% des Iraniens sont nés après la révolution islamique. Alors, ce que l'on a vu dans ces manifestations, et là j'ai peut-être un petit différent. Moi, je crois que la chose que les manifestants ont montré, c'est pas du tout leur hostilité à la religion. C'est l'hypocrisie des religieux et du guide suprême. C'est-à-dire qu'ils ont dit, vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Et vous n'avez pas la légitimité religieuse que vous prétendez avoir. Mais ils n'ont pas mis en cause la religion.
Je suis parfaitement d'accord avec Thérèse Delpech. Je pense qu'on a toujours un peu, une sorte un peu de myopie occidentale. Il faut bien admettre une fois pour toutes que la majorité des Iraniens sont des gens croyants et des gens nationalistes. Quand ils sont pas nationalistes, ils sont patriotes. Donc le sentiment identitaire est extrêmement fort et c'est certainement pas une mise en cause de l'islam et certainement pas une mise en cause, je dirais, de l'idée personne à laquelle on a assisté, mais un rejet d'un régime, effectivement.
Alors justement, sur le sens, la profondeur et les limites de ce rejet, je voudrais vous poser une question. Elle concerne précisément le nationalisme. Vous vous souvenez qu'Ahmadinejad était présent à Genève pour Durban II. Et nous avons entendu son discours à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Les puissances occidentales ont recouru à l'agression militaire pour transformer toute une nation en peuple sans abri sous le prétexte de la souffrance juive. Et ils ont envoyé des immigrants d'Europe, des États-Unis et d'autres parties du monde pour mettre sur pied un gouvernement raciste en Palestine occupée. Il a ajouté la raison du soutien de ces puissances à Israël aujourd'hui et que le sionisme égoïste et barbare est parvenu à pénétrer profondément leur structure politique et économique, et ce qui inclut leur législation, leurs médias de masse, leurs entreprises, leurs systèmes financiers et leurs agences de sécurité et de renseignement. Ce faisant, il est quand même dans la filiation de Khomeini. Vous m'avez appris dans votre livre, Jean-François Colosimo, que le premier grand manifeste politique de Khomeini en 1963, alors qu'il n'y avait pas de territoires occupés en Cisjordanie, était un manifeste antisioniste. Et lorsqu'il est revenu à Téhéran, il a été accueilli par une foule en liesse. Et je me suis dit, à ce moment-là, il est en campagne électorale. Et j'étais évidemment abasourdi et attristé. Il y a eu cette réaction de rejet. Alors, jusqu'où va-t-elle? Autrement dit, est-ce qu'un nationalisme qui désigne l'Amérique comme le grand Satan et Israël comme le petit Satan, mais qui tire toutes les ficelles même de l'Amérique, est-ce que ce nationalisme d'Ahmadinejad est partagé par ceux aujourd'hui qui dénoncent l'hypocrisie du clergé, ou bien est-ce que le clivage passe aussi là? C'est pour vous interroger sur l'ampleur du rejet dont ce régime a été la cible.
Moi, je pense que la question d'Israël, c'est une question extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, Israël a raison de prendre au sérieux les menaces d'Ahmadinejad et du régime de Téhéran. En même temps, pour ma part, en Iran, je n'ai pas noté, parmi évidemment les classes urbaines cultivées, etc., de sentiments antisémites. À preuve, encore, une faible communauté juive, faible numériquement, vit là, mais elle vit sans problème, évidemment, dès lors qu'elle ne se manifeste pas politiquement, mais elle a le sort de toutes les minorités de ce type d'État autoritaire. Qui plus est, il y a un sentiment anti-arabe, qui est une partie intégrante de la mentalité perse, qui est un sentiment anti-arabe qui est bien plus fort, à mon avis, que le sentiment, pour le coup, antisémite, et même certainement que le sentiment antisioniste. Lorsque Khomeini récupère l'antisionisme, c'est parce que lui qui est persan et chiite, il est à la périphérie de l'islam, de l'islamisme, du monde arabe, et en fait, c'est par ce biais qu'il veut affirmer sa suprématie à la fois idéologique, son leadership, en quelque sorte. Mais l'anti-américanisme, lui, il est autrement plus profond. Et évidemment...
Est-ce qu'il est aussi profond, donc, c'est ça que j'ai la question que je voudrais poser, chez les manifestants qui ont dit leur rage d'avoir été spoliés de leur victoire électorale, que dans le régime qui se maintient aujourd'hui par la force de la répression?
Je crois qu'il y a un sentiment angoissé, obsidional chez les persans.
Chez les uns et les autres.
Donc. Qui fait que, de toute façon, par exemple, la guerre Iran-Irak est vue comme une guerre manipulée par l'Occident. Et ça, je pense que c'est un sentiment, par exemple, qu'on retrouverait parfaitement chez les manifestants.
D'accord.
Les manifestants se sont exprimés très clairement sur ce sujet. Ils ont crié « mort à la Chine, mort à la Russie ». Ils n'ont pas du tout crié « mort aux États-Unis ». Et pourquoi ont-ils crié « mort à la Chine, mort à la Russie » C'est parce que ce sont les deux pays qui ont reconnu très très vite des grandes puissances, qui ont reconnu très très vite l'élection d'Ahmadinejad. Et les Américains ont fait une partie de leur campagne interne sur les liens avec, sur la main ouverte à l'Iran, etc., avec l'idée précisément que la société iranienne, contrairement aux sociétés arabes, que la société iranienne n'était pas anti-américaine. Et de fait, les étudiants ne sont pas du tout anti-américains. Alors, sur la question israélienne, les choses sont également très claires. Vous avez un pouvoir dont on peut dire qu'il est hystérique sur ce sujet. Ce n'est pas du tout le cas de la population iranienne, dans les villes et dans les campagnes. Ça n'est pas du tout le cas.
Quelle preuve on a de ça ?
La preuve que l'on a de cela, c'est quand même, si vous voulez, l'expérience que tous les chercheurs qui travaillent sur l'Iran sont aussi des déclarations qui sont des déclarations d'avocats, d'Iraniens. Il n'y a aucun doute sur le fait. Enfin, il y a même un accord, si vous voulez, de la. Il arrive que les communautés d'experts se trompent, hein, mais il y a sur ce plan un assez grand accord. La population iranienne n'est pas antisémite. Ils disent même parfois, on se demande bien pourquoi Ahmadinejad s'est mis à dos à ce point la communauté internationale avec ses déclarations fracassantes, alors que nous, ce dont on a besoin, c'est d'une amélioration de notre vie économique.
Bien, alors écoutez, alors ça c'est en effet une donnée très importante. Maintenant, je voudrais vous interroger sur l'attitude qu'à votre avis, l'Occident devrait adopter face à cette nouvelle donne iranienne. Dévoilement ou basculement, en tout cas, il y a eu un grand changement. Il y a des rendez-vous politiques pressants avec la nouvelle diplomatie américaine. Quelle doit être l'attitude, notamment, à votre avis, des Occidentaux sur la question de l'arme nucléaire, Jean-François Colosimo?
Là, c'est le grand embarras, parce que pour amener les Iraniens à la table des négociations, il fallait effectivement un président plus présentable que Ahmadinejad, au moins pour entamer un semblant de négociation, puisqu'on sait que ces négociations sont bloquées en raison de l'apparent siège absent de l'Amérique dans ces négociations. Je crois qu'aujourd'hui, on est face à vraiment, je dirais, une impasse. C'est l'impasse que veut le régime, d'ailleurs, pour se survivre, pour renouveler le mythe fondateur révolutionnaire. On est face à une impasse parce que, avant ces élections, il semble qu'une forme de solution commençait à poindre, qui aurait pu avoir, évidemment, ils disaient non par principe, mais qui aurait peut-être pu avoir l'aval des Israéliens, et qui était la mise sous gouvernance et sous contrôle d'un nucléaire civil iranien limité, cette mise sous contrôle russe. Semble-t-il, c'était une hypothèse en tout cas, et semble-t-il, les Iraniens étaient prêts peut-être à faire le pas. Aujourd'hui, donc, on est face à un régime qui, effectivement, a une rhétorique délirante, un régime qui est menaçant, mais il semble bien pour autant que toute opération militaire soit à peu près impossible, au moins sur le papier. Les Israéliens n'ont pas les moyens de la faire par eux-mêmes. Il leur faudrait des bombes perforantes que les Américains leur refusent. Il faudrait en plus certainement une opération aéroportée de plusieurs jours pour frapper des sites ciblés qui sont eux-mêmes entourés de populations civiles. Donc ce seraient des images désastreuses. Le prix du pétrole s'envolerait dans la stratosphère et certainement l'Iran répliquerait par des actions terroristes un peu partout au Moyen-Orient et peut-être par-delà en visant les intérêts américains. Et surtout, les Américains sont dans une situation effroyable en Irak et en Afghanistan. Bon, donc on en est là. Impasse totale. C'est pour cela que très certainement, peut-être, je ne sais pas, sans faire de science-fiction, peut-être que d'autres opérations sont envisagées pour essayer de débloquer cette impasse que Ahmadinejad, je n'en sais rien, mais en tout cas, il est évident que la disparition
d'Ahmadinejad
pourrait permettre l'émergence d'un nouveau visage qui pourrait relancer peut-être
nouveau visage ou peut-être visage ancien. Je vous donne tout de suite la parole, Thérèse Delpech, mais dans votre livre,
cette disparition pourrait être provoquée d'ailleurs par ses propres gens.
Oui, mais alors justement, parmi ceux qu'on considère comme des sortes de personnages alternatif, il y a Rafsanjani, présenté comme un pragmatique. Oui. Hein, mais vous dites vous-même, en tout cas je l'ai appris dans le paradoxe persan, Jean-François Colosimo, qu'il a déclaré que la République islamique ne reculera pas devant une troisième guerre mondiale pour acquérir la bombe et en frapper au besoin l'État hébreu. Oui. Donc est-ce que c'est vraiment... Mais on pourrait dire, miser sur lui.
Sans porter trop atteinte à son honneur, l'intérêt avec lui, c'est que c'est un homme richissime qui fait partie un peu de cette grande corruption dont parlait Thérèse Delpech, qui a des intérêts très divers, et qui représente justement la ligne pragmatique, parce que lui, il pense que l'Iran est en train de retrouver sa puissance régionale, et que justement, il est temps de négocier, c'est pas en s'isolant que l'on va asseoir cette
donc
puissance.
Donc il faut pas prendre ses déclarations
là, je crois qu'il était plutôt en campagne électorale, d'accord, à sa façon, mais c'est un homme, en tout cas, qui a eu l'habitude de traiter avec les Américains, et à un certain point, avec les Israéliens, lors de l'Iran Gate.
Thérèse Delpech.
Bon, sur Rafsanjani, on trouvera d'autres déclarations comme celle que vous venez de citer. Il a dit, par exemple, en 2001, que la beauté de l'arme nucléaire, c'était qu'elle permettait d'éradiquer Israël avec une seule arme. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs déclarations de ce type chez lui. Alors, ce qui est intéressant dans la crise actuelle, c'est de voir le rôle qu'il a joué. Rafsanjani est allé à la confrontation avec Khamenei jusqu'à un certain point. Il pouvait aller plus loin, s'il voulait. Il est allé jusqu'à un certain point, et en particulier dans son fameux prêche du vendredi, qui a laissé penser aux Iraniens qu'il allait prendre véritablement la tête avec Mousavi d'une contestation sérieuse. Ce n'est pas du tout son intention. Donc, aujourd'hui, pour revenir à la question de base qui était la vôtre, c'est-à-dire quelles sont les options pour les pays occidentaux et d'ailleurs aussi pour la Russie et la Chine. Bon, premièrement, il faut quand même constater l'échec de la politique de la main tendue de Barack Obama, parce que si on continue à y croire, à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire qu'on nie complètement la réalité. Il a dit qu'il tendait sa main à ceux qui desserraient leur poing. Là, non seulement ils n'ont pas desserré le poing, mais ils ont un poing qui est maculé de sang. Et il y avait peu de façons de dire non plus brutalement qu'avec la réélection frauduleuse d'Ahmadinejad. Donc, échec de la politique américaine.
Une toute petite question, oui, avant que vous posiez votre raisonnement. C'est un échec, mais est-ce que Obama n'a pas joué un rôle dans justement la mobilisation contre ce pouvoir, parce que le complexe obsidional pouvait moins jouer? Comment sataniser l'Amérique quand ce n'est plus l'Amérique de Bush, mais l'Amérique d'Obama, et que précisément elle propose une politique de la main tendue? Donc cette politique n'a-t-elle pas eu des effets positif sur la société iranienne?
Moi, je crois qu'on surestime le rôle d'Obama dans ce qui s'est passé à Téhéran. Je pense que l'essentiel tient à la société iranienne, que le personnage vraiment décisif dans la campagne, puisque, comme vous le savez, Mousavi, au début de la campagne, était un personnage assez terne, qui faisait une campagne assez terne, et les manifestations n'étaient pas très importantes. Le moment où les manifestations ont pris un autre tour, c'est au moment où sa femme a commencé véritablement à intervenir. C'est elle, en fait, la personne capitale, à mon avis, dans le succès de Mousavi, et le moment aussi où Mousavi a parlé de façon beaucoup plus importante de l'ouverture du pays. Parce que cette jeunesse et ces femmes étouffent en réalité en Iran, si vous voulez. C'est un phénomène de cocotte minute qui était devenu insupportable. Donc moi, je crois qu'il faut rendre à la société iranienne ce qui lui revient. Deuxièmement, toujours pour les options qui sont les nôtres, après le constat d'échec de la politique de la main tendue, il faut bien prendre en considération le fait que Ahmadinejad a confirmé le même négociateur que celui que l'on avait auparavant, Saïd Jalili, qui est tout sauf un négociateur. Il refuse de parler même du dossier. Il ne fait que des discours sur l'injustice du monde. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Maintenant, vous avez le ministère de la Défense qui est recherché par Interpol. ce qui n'est pas non plus un élément formidablement encourageant pour les relations avec le reste du monde. Et puis alors, maintenant, si on regarde négociations, je crois que les négociations, très franchement, ne peuvent pas, parce que les Iraniens ne les souhaitent pas. Ils veulent bien gagner du temps en faisant croire qu'eux, mais ils ne les souhaitent pas. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste les sanctions. Et je crois que c'est une piste, d'ailleurs, qui va être sérieusement examinée, parce que les sanctions, des sanctions qui peuvent faire vraiment mal aux éléments du régime qui sont aujourd'hui les éléments oppresseurs, ces sanctions existent. C'est-à-dire qu'on peut toucher directement les intérêts économiques des pasdarans, on peut toucher directement les intérêts économiques des principaux membres du régime actuel. Ceci est possible. Et dans le courant du mois de septembre, qu'il s'agisse de l'Assemblée générale de l'ONU, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, qu'il s'agisse du G20, dans le courant du mois de septembre, on peut espérer que ceci prendra forme. Maintenant, sur la dernière chose, c'est-à-dire l'option militaire, personne ne la souhaite, mais il ne faut pas non plus la présenter comme une impossibilité. Ce n'est une impossibilité ni pour les Américains, ni même pour les Israéliens.
Ça, c'est à voir. Moi, je trouve que là, on a eu quand même une présentation un peu unilatérale, pour dire la vérité. La politique d'Obama, son refus d'apparaître comme faisant de l'ingérence, c'était d'une grande intelligence. On ne peut pas surestimer son rôle dans les affaires de Téhéran, mais on ne peut pas sous-estimer la grande intelligence qu'il a montrée pour désamorcer effectivement la désignation immédiate par les Iraniens de cette Amérique grand Satan qui toujours veut le mal de l'Iran. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si Moussavi, qui était quand même un vieux briscard, un ancien du régime, a fait une bonne campagne grâce à sa femme, bon, on en est très heureux pour lui et pour sa femme, ça ne veut pas dire que Moussavi aurait été élu. On n'en saura jamais rien, mais probablement, malgré tout, Ahmadinejad...
Vous pensez qu'Ahmadinejad a gagné ?
Je pense qu'Ahmadinejad aurait gagné au deuxième tour et que c'était très exactement l'enjeu du régime, c'était qu'il passe au premier tour pour être président fort.
Bah, d'après ce qu'on sait, il était en troisième position, hein. D'après ce qu'on sait, il était en troisième position. Et... Maintenant, une chose importante, importante sur l'Amérique, non, c'est simplement pour vous répondre sur le premier point.
Laissez-moi finir, s'il vous plaît.
Dites un mot sur l'Amérique.
Sur l'Amérique, ce que je voudrais dire, c'est que, en réalité, Obama a été critiqué par les démocrates eux-mêmes en disant, écoutez, à un moment aussi crucial de l'histoire iranienne, l'Amérique est absente. Et d'ailleurs, les Iraniens ont dit, mais pourquoi est-ce que il n'y a pas de soutien alors qu'il y a eu à Londres, à Berlin, à Paris, des réactions immédiates. Et Obama s'est aperçu très vite qu'il ne pouvait pas rester silencieux, parce que 10 jours plus tard, il est intervenu.
Je pense que justement, il n'est pas intervenu à contre-temps. Enfin, cela dit, je pense qu'il est un peu mieux conseillé que ne le suppose Thérèse Delpech sur ses affaires, principalement, puisqu'il est conseillé dans cette affaire par Brzezinski, qui est quand même un des meilleurs, à mon avis, connaisseurs du dossier iranien, et pour cause, c'est lui qui a eu à traiter l'arrivée sous Carter de l'Ayatollah Khomeini au pouvoir.
Bon. Carter est quand même pas un exemple sur l'Iran. Hein.
Non, je parle de Brzezinski, qui n'est peut-être pas non plus simplement...
C'est quand même une débâcle. Il a été obligé d'accompagner la débâcle.
L'opération militaire était une débâcle, puisqu'il a été une débâcle, c'est la politique américaine pendant 25 ans en Iran. Et ce n'est pas celle simplement de Jimmy Carter, c'est de M. Nixon. M. Nixon est aussi responsable historiquement, certainement. Oui. Quand on arrive comme ça à se diaboliser, toute une culture, la culture américaine, par une grande culture, la culture iranienne, et qu'on se retrouve face à cette impasse. Ensuite, certainement, pour ce qui est des négociations, bien sûr, les Iraniens aujourd'hui ne négocient pas. Bien sûr, on peut les soupçonner de toutes les ruses pour pouvoir gagner du temps.
Et veulent-ils, à votre avis, l'arme nucléaire ?
Mais bien sûr qu'ils la veulent.
Bon.
Mais bien sûr qu'ils la veulent, parce que c'est un symbole de souveraineté, parce que l'Inde là, parce que le Pakistan là, c'est pas simplement pour vitrifier Israël. Certainement pas, d'ailleurs, leur premier projet. Certainement pas leur premier projet, puisqu'ils savent qu'en retour, ils seraient vitrifiés eux-mêmes avant même d'avoir vitrifié Israël. Je pense pas qu'ils soient, au moins, jusqu'à ces élections-là, on pouvait penser que l'équilibre des pouvoirs empêchait une espèce de pulsion suicidaire.
Mais là, maintenant, même cette question se pose.
Voilà, elle se pose, voilà, c'est ça. Mais jusqu'à là, il y avait quand même des factions, il y avait une forme d'autocontrôle. Le dernier point, c'est que cette opération militaire, militairement, je crois pas que les Israéliens puissent la faire, en tout cas, c'est pas ce que j'entends en Israël. Je pense que les Américains peuvent la faire, en tout cas les Israéliens ne peuvent pas la faire sans l'assistance américaine. Mais le problème, ce n'est pas de faire une opération militaire, c'est d'en assumer les conséquences, quand même. Et là, vous avez l'exemple de l'Irak.
Mais alors, restons-en aux sanctions. Récemment, Angela Merkel appelait à un durcissement des sanctions contre l'Iran. Est-ce une piste qui doit être suivie, selon vous, par les États occidentaux,
avec une
l'Amérique
limite,
et l'Europe, cette fois-ci convergent.
Avec une limite, c'est que si on suppose tout de même que le régime a plus de soutien qu'on ne croit, y compris dans la population, parce que cette population, elle n'a pas défilé entièrement, pour la simple raison que si elle avait défilé entièrement, il n'y aurait plus de régime alors qu'il est, n'est-ce pas ? Bon. Si on ne réduit pas l'image des Iraniens à cette image modèle que nous avons de ces manifestants effectivement courageux, modèles, mais dont on a vu que politiquement, ils étaient incapables de s'opposer à la machine répressive, en tout cas pour l'instant, alors on se dit aussi qu'il y a un problème, c'est qu'à un certain degré, le durcissement des sanctions est un encouragement au régime. Comment on fait, là, politiquement, pour traiter ça de manière efficace, c'est-à-dire que pour que le durcissement des sanctions arrive à faire craquer le régime, à ne pas le renforcer? Pour moi, c'est une véritable question, parce que je suis quand même un peu moins, je pense un peu moins que Thérèse Delpech, que les très courageux manifestants de Téhéran représentent tout du peuple iranien.
Thérèse Delpech.
Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, je ne pense pas cela. Je pense simplement que ce sont ceux dont on a vu la mobilisation. Que quand Ahmadinejad a cherché, lui, à faire une grande manifestation, il a fallu qu'il amène ses gens par car. Et donc, ce que je dis simplement, c'est que la partie active de la société iranienne, oui, est plutôt du côté des manifestants. Maintenant,
là, on sera d'accord. La partie voilà. plutôt active
de
la population urbaine.
Maintenant, je ne pense pas. Pas seulement urbaine, parce que là, on commet souvent l'erreur de penser que les campagnes sont avec Ahmadinejad. Ça n'est pas vrai pour la raison suivante, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail dans les campagnes, que vous avez pas mal de jeunes qui vont dans les villes et qui ramènent des villes un certain nombre d'informations qui font que, d'ailleurs, comme l'a montré l'enquête remarquable de la BBC sur ce sujet, les campagnes n'ont pas voté massivement, apparemment, pour Ahmadinejad. Maintenant,
mais le pas problème voter des... pour Ahmadinejad, ça ne veut pas dire être contre le régime. C'est ça qui est...
Non pas voter massivement pour Ahmadinejad. Donc, maintenant, la raison pour laquelle ces manifestants n'ont, à mon avis, aucune chance de l'emporter dans le futur proche, c'est que c'est une armée sans général. Tous les opposants qui avaient véritablement du charisme, vous voyez, des gens comme Rassemlou, ont été assassinés, ou bien ils sont en prison. Vous avez aujourd'hui des figures qui sont de pâles figures. Les mêmes ceux...
Moussavi est une pâle figure.
Oui, Moussavi est une pâle figure.
Alors, un tout petit
il
mot.
Il est débordé,
alors,
en
justement,
réalité.
Mais vous avez dit que vous avez souligné l'importance du rôle de sa femme. Alors, est-ce que vous pourriez en dire un tout petit peu plus, Thérèse Delpech? Quel a été son rôle? Qu'a-t-elle dit? Qu'a-t-elle fait pendant cette campagne électorale de déterminant?
La femme de Moussavi a plaidé non seulement pour le droit des femmes, qui est quelque chose qui a en Iran une résonance infiniment plus importante que cela ne peut avoir de résonance dans les pays arabes, mais c'est aussi quelqu'un qui a plaidé pour des valeurs démocratiques et pour une séparation des différents pouvoirs, si vous voulez. C'est une femme, voilà, visiblement, qui a, elle, du charisme, ce que n'a pas son mari. Si vous regardez, tout le monde peut le voir sur Internet, regardez le débat télévisé entre Ahmadinejad et Moussavi. Il est incroyablement falot. Il n'a pas trouvé un mot le lundi où il y avait 3 millions de personnes dans la rue pour dire quelque chose à ces 3 millions de personnes. Alors, il y a une dernière chose que je voudrais dire, c'est sur le nucléaire. Je crois que cette affaire a montré une chose de très important. C'est que, comme on l'a vu dans la campagne, le nucléaire a joué un rôle pratiquement nul. Il a été question de l'ouverture, de l'économie. Le nucléaire n'a pratiquement pas été là, présent dans les débats. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous avez bien un consensus en Iran sur l'accès à la technologie nucléaire civile.
Oui, c'est ça.
Mais il n'y a pas du tout de consensus sur l'accès à la bombe.
Jean-François Colosimo.
Oui, je voudrais dire, sur Moussavi, c'est un apparatchik. Donc, effectivement, sa femme lui a donné un petit air de nouveauté. Et vraisemblablement, elle pouvait cristalliser ce mouvement féministe iranien qui a toujours existé, y compris sous la République islamique. Je rappelle que Pour ceux qui le désirent, on peut consulter en français l'anthologie du journal Zanane, Femme, qui était un journal féministe très lu et qui vient d'être récemment interdit. Donc là-dessus, on va être d'accord. Moi, je crois que le problème, c'est pas de savoir s'il y a un consensus démocratique sur le nucléaire, c'est que la représentation de l'Iran par lui-même comme puissance implique la souveraineté. Cette souveraineté que l'Iran a vue toujours comme menacée au cours du XXe siècle et qu'il n'y a pas de souveraineté absolue aujourd'hui pour une puissance régionale de cette taille sans l'arme nucléaire et que, en fait, là où on est très gêné par rapport à eux, c'est même pas que l'Iran ait ou n'ait pas la bombe, c'est le problème de la prolifération dans la région. Parce que si l'Iran accédait au nucléaire avec la capacité nucléaire civile, la capacité claire d'accéder au nucléaire militaire, l'Arabie saoudite voudrait la bombe, l'Égypte voudrait la bombe, la Turquie voudrait la bombe, la Syrie voudrait la bombe, la Jordanie. Et là, on serait de face à un scénario catastrophe réel.
Bah, c'est déjà un scénario catastrophe si un pays qui prétend rayer un autre pays de la carte
bien
de
sûr,
la bombe.
Bien sûr, mais
le mécanisme de la dissuasion, là, ne marche plus.
Mais un Iran un peu plus démocratique, qui serait peut-être pas forcément moins corrompu d'ailleurs, parce qu'il y a un problème de culture aussi orientale, ça ne serait pas forcément un Iran qui voudrait moins accéder à la bombe qui est l'attribut de la puissance.
Écoutez, je sais pas, l'Allemagne est un pays puissant, je crois, même un des plus puissants d'Europe. Il n'aspire pas à la bombe. Le Japon est un grand pays puissant qui, à ma connaissance, n'aspire pas à la bombe.
Mais c'est en c'est très exactement pour cela que toute l'idée était de faire de l'Iran, comme le Japon, une puissance nucléaire du seuil, c'est-à-dire une puissance nucléaire civile capable de passer en quelque temps au militaire, mais s'interdisant d'y penser. C'était ce que voulait déjà le Shah d'Iran. Il faut quand même rappeler que le programme nucléaire ne date pas des ayatollahs, mais date du Shah et a été largement encouragé par les puissances occidentales.
Oui, alors la deuxième chose que je voulais dire, c'était que, en réalité, l'Iran n'est menacé aujourd'hui par personne, mais vraiment par personne, sauf à cause de son programme nucléaire. Il faut quand même le rappeler. Bon. Ils ont perdu, dans les dernières années, leurs principaux ennemis. L'Irak, grâce d'ailleurs au grand Satan, ils ont perdu l'Irak. Ils ont perdu l'ennemi aussi afghan, les talibans, qui étaient des ennemis absolument... mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que dans les dernières années, le programme nucléaire iranien de la République islamique, elle date de la guerre avec l'Irak. C'est un élément qui permet d'ailleurs de rappeler que l'acquisition de cette bombe n'a strictement rien à voir avec Israël. Et là, il y a eu deux moments où les Iraniens se sont lancés dans le programme nucléaire, sous le Shah, où les relations avec Israël étaient excellentes, et en 1985, où le problème, c'était l'Irak, c'était pas Israël. Donc, vous avez en réalité aujourd'hui un pays qui, et c'est d'ailleurs le message qu'on vient de lui redonner, l'Union européenne, à Stockholm, aujourd'hui, par la voix du ministre des Affaires étrangères suédois, Carl Bildt. Il a dit, voilà, vous pouvez choisir l'isolement ou l'ouverture. Si vous voulez la confrontation, vous aurez la confrontation. Mais la vérité, c'est que la confrontation vient de cette fermeture et de ce refus quand même d'accepter les résolutions du Conseil de sécurité que même la Russie et la Chine défendent naturellement.
Alors, une ultime question qui ne concerne pas simplement la bombe mais le statut de puissance qu'a acquis l'Iran. Admettons que le processus de paix reprenne grâce notamment aux pressions américaines sur les acteurs et notamment sur Israël, entre Israéliens et Palestiniens. Les Iraniens ont-ils les moyens de faire dérailler ce processus par le Hamas, par la voix du Hezbollah, par leur rhétorique incendiaire, et peut-on répondre d'avance à cette menace? Jean-François Colissimo,
il semble clair que tout le projet d'Ahmadinejad qui reprend le projet de Khomeini, c'est d'assurer un leadership sur le monde musulman en récupérant, entre guillemets, cette cause, n'est-ce pas? Donc, si un processus de paix s'engage, vraisemblablement, le gouvernement iranien tel qu'il est aujourd'hui sera non seulement contre, mais opportuniste, et probablement aussi, je dirais, agitateur au possible de toutes les convulsions en cours, ça c'est sûr. Mais ça, c'est sa politique depuis longtemps.
Thérèse Delpech.
Oui, c'est le cauchemar du régime actuel, ça, il n'y a aucun doute, si ça marche.
Et en même temps, on ne sait pas bien comment sortir de ce cauchemar.
Absolument.
Bon, mais écoutez, nous terminons sur cette conclusion un peu désabusé, mais que dire d'autre. Merci beaucoup Jean-François Calossimo, merci Thérèse Delpech. Je rappelle le titre de vos livres respectifs. Thérèse Delpech, vous avez publié « L'Iran, la bombe et la démission des nations » aux éditions Autrement, et Jean-François Calossimo, « Le paradoxe persan, un carnet iranien » aux éditions Fayard. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Faire aimer la littérature ». Mes invités seront Daniel Salnave et Augustin Dumière. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Marie Dalquier et Didier Lagarde. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.